test au niveau des micros.
Comment?
On va faire un test pour les micros.
Oui.
Je vais vous demander de vous présenter.
Eh oui, je m'appelle Jean Rubeau. Je suis né le 9 juillet 31 à Barcerolles. Étant jeune, j'ai désiré faire être vigneron, parce que mes ancêtres avaient toujours été vignerons, sauf mon père qui avait des problèmes. À cette époque-là, il crevait la faim. Il est donc rentré à l'EDF. Mais c'était, il est rentré pour se faire de l'argent, parce qu'il n'aimait pas l'EDF, il aimait son vigné, son métier.
Alors ma mère m'a dit,
comment
vous êtes né où exactement?
9 juillet 31 à Barcerolles. Le 9 juillet 31 à Barcerolles.
Et où à Barcerolles?
À côté, Boulevard Gambetta, 24 Boulevard Gambetta à Barcerolles.
Donc vous êtes né chez vous?
Oui, il y a, à cette époque-là, oui, on n'accouchait pas. Bon, je suis né donc chez la maison de mes parents. Et il y a donc 2 siècles que nous sommes à Barcerolles, dans le Haut, tout au moins. Et avant, nous étions savoyards. Faut que je vous raconte l'histoire de ma famille, non?
Vous avez connu vos grands-parents?
Ah oui. Faut que je vous raconte l'histoire de ma famille.
Bah, oui, vos grands-parents, par exemple.
Eh bien, mes ancêtres étaient un savoyard. Certains savoyards ramonnaient les chemises. Et les miens, non. Les miens vendaient des étoffes à travers la France. Et puis, ils arrêtent à Barcerolles. La femme accouche à Barcerolles. Ils mettent leur fils en pension à Rentières, un petit village à côté de Barcerolles. Ils payent 3 mois de pension, ils s'en vont faire revendre leurs étoffes en France. Ils repassent au bout de 3 mois. Il y avait soit la peste, soit le choléra. Et beaucoup de gens étaient morts, et leur gosse était mourant. Ils sont partis. Et le gosse n'est pas mort, l'enfant n'est pas mort. À partir de ce moment-là, il était abandonné. Heureusement, la nourrice l'a élevé à ses frais. Et à cette époque-là, les gens vivaient très mal. Ils mangeaient à peine à leur faim. Il y avait des vignes partout, mais le vin ne se vendait pas bien. Et il y avait vraiment des problèmes économiques terribles. Et alors, c'était en 1821, ça. Et il a donc été élevé par sa nourrice. Tout petit, il a travaillé dans les vignes. Il a appris à écrire et à lire le français par lui-même. Et ensuite, il s'est marié avec une fille du pays. Ils ont eu 6 enfants, ils étaient très pauvres. Mais sa nourrice lui avait dit qu'il était originaire de Savoie. Mais il ne pouvait pas écrire, ça ne passait pas le courrier, parce que la Savoie n'était pas rattachée à la France. Elle a été rattachée qu'en 1860. À partir de cette époque-là, il a écrit à tous les maires de Savoie pour rechercher sa famille. Et il a une réponse. On connaît votre famille, votre père est mort, mais votre mère et votre frère habitent à Tours maintenant. Il a donc écrit à Tours. Ils ont envoyé, début du chemin de fer, un cousin le chercher. Ils ont fait connaissance. Mon fils doit être fâché après nous t'avoir abandonné. Puis dis donc, j'allais mourir. Et son frère, c'était un très grand médecin, professeur de médecine, qui avait entre autres comme client la reine d'Angleterre et Napoléon III. Vous savez qu'à cette époque-là, Napoléon III était l'ami de la reine d'Angleterre, alors que Napoléon Ier faisait la guerre en Angleterre. Il enterrait du reste en Angleterre, Napoléon III. Alors, ce frère-là, ils se sont vus plusieurs fois, ses enfants sont allés le voir, etc. Il est mort un peu avant lui, et il a laissé une grosse quantité de louis d'or. Et avec ces louis d'or-là, il a acheté un commerce à chacun de ses 6 enfants. Voilà. Mais il est resté vigneron, mon ancêtre. Et ses enfants, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, étaient vignerons. Alors, à partir de là, j'ai voulu moi aussi être vigneron, et mon fils également. Mon fils est maîtrise de droit, il était notaire pour être notaire, il a voulu faire reprendre l'affaire. Et moi, ma mère m'a dit, je veux bien que tu sois vigneron, mais tu vas aller longtemps à l'école. Je suis allé longtemps également, aller longtemps à l'école. Et donc, j'ai repris l'affaire. Mais au début, vous savez, on crevait. J'ai failli être instituteur à l'hiver, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais les quitter. Au début, donc, j'ai relevé les compteurs pour l'EDF. Je travaillais pour l'EDF, ils voulaient me garder. J'ai fait 4 sous, j'ai gagné 4 sous, parce que la vigne ne gagnait rien. D'abord, on achetait les terres, on ne les payait rien. À l'époque, on ne valait rien, les terres. Mais la vigne, ça met 4 ans minimum pour donner. Le champagne, il faut 2 ou 3 ans de fabrication, de vieillissement pour le vendre. Vous vous rendez compte de l'investissement qu'il fallait faire, et on n'avait rien. Et puis, il fallait acheter du matériel, un tracteur, etc. Et on n'avait rien. Et donc, j'ai réussi au bout, on a tiré la langue très longtemps, et puis j'ai réussi à m'en sortir. Et aujourd'hui, ça marche très fort, évidemment. Mais il n'y a pas longtemps, il y a 30 ans. Il y a 2 raisons pour lesquelles la vigne marche très fort. Il y a une raison d'abord climatique. C'est vrai que le climat s'est réchauffé. Depuis 30 ans, on ne gèle quasiment plus. On a gelé cette année, mais c'est l'exception, on ne gèle plus. Et puis autre chose, on en plante des clones. Maintenant, des clones, ce sont les plants ultra sélectionnés qui donnent énormément, tout en étant d'une excellente qualité. Donc les rendements, j'ai dit à une réunion syndicale il n'y a pas tellement longtemps, la moyenne de récolte il y a 50 ans, sur 10 ans, 3000 kHa. À l'heure actuelle, c'est 10, 12, 15 000. Vous voyez la différence. Alors on paye charges sociales, on paye des impôts, mais on s'en sort. Il en reste. Voilà. Ça tient à 2 raisons. Le changement climatique, et puis l'autre raison, les clones. Donc maintenant, ça marche très bien. Et mon fils a repris l'affaire, petitement parce qu'il est célibataire, mais enfin, il a repris l'affaire.
Alors, que faisaient vos parents?
Comment ?
Que faisaient vos parents ?
Eh bien, mon père était vigneron. Et puis, pour s'en sortir, comme ça n'a pas marché, il est allé travailler à l'EDF.
Voilà. Et quand vous êtes, vous êtes venu au monde, il travaillait déjà à l'EDF ?
Non, je crois pas. Il a dû rentrer un peu après. Et puis, mes grands-parents, ma grand-mère tenait un café derrière l'hôtel de ville, au centre-ville. Et dans ce café, se réunissaient en même temps Cheikh et Blo, qui habitaient chacun à une extrémité de la ville, et d'autres vignerons, et c'est de là que partaient les directives pour la révolte des vignerons de 1911. Et mon grand-père s'en tirait mieux que les autres parce qu'il savait soigner son vin. Et comme il savait soigner son vin, il le vendait, quand certains ne le vendaient pas bien, il le vendait à ses clients dans le café. Et tous les vignerons du coin, les 4 sous qu'ils avaient, ils venaient les dépenser au café. Ils amenaient leur casse-croûte le samedi, ils venaient à pied, ils cassaient la croûte là et ils consommaient le vin de mon grand-père. Voilà. Nous sommes ici, ancrés ici depuis... On se tombe du reste au cimetière depuis 2 siècles, quoi, nous sommes ancrés ici. Et j'ai retrouvé, dans un voyage avec un cousin, on est allé à Tours, on a retrouvé les tombes de la famille, de nos ancêtres. Voilà l'histoire.
Et vous avez connu vos grands-parents ?
Oui, du côté Rubaud, oui.
Du côté Rubaud, et qu'est-ce qu'ils vous racontaient Est-ce que vous parlez de vigne ? Ils vous parlaient de tout ça ?
Bah non, j'étais gamin, ils ne me parlaient pas de vigne, non. Mon père m'en a parlé. Et puis des amis, bien sûr, j'ai un ami qui est ici, qui est de la Lande, qui est professeur, il est en retraite maintenant, il était agrégé d'histoire et de géographie. Alors c'est une grosse tête, et avec lui on sait bien beaucoup de choses. Et puis donc j'ai discuté avec des tas de vignerons, j'ai connu des vignerons anciens à Barcelone quand je me suis installé, et j'ai discuté avec eux, évidemment.
Et qu'est-ce qu'ils vous racontaient ?
Bah, ils me racontaient que c'était dur. La vigne au début était plantée en foule. Elle n'était pas plantée en rang comme maintenant, elle était en foule. Pas des fils de fer, ça n'existe pas, pas des piquets. Il y avait des jalons en bois, de 1, 2 ou 3 jalons pour chaque plant de vigne. Et elles étaient plantées tout par le travers, forcément, parce que la vigne se cultivait au fousseux. Vous savez, tu as dû parler du fousseux. Ils avaient dressé les fousseux, les révoltés, ça faisait des lances. Alors, la vigne étant cultivée avec des fousseux, on ne traitait pas beaucoup les vignes, parce que c'était la vigne française qui n'était pas greffée, elle poussait très peu. Donc elle n'attrapait pas le phylloxéra. La vigne américaine greffée, qu'on dit américaine, parce qu'elle est greffée sur des plants sauvages, elle pousse énormément et elle attrape le phylloxéra. C'est pour ça qu'on est obligé de traiter. Donc, je ne sais pas où j'en étais moi. À cette époque-là, il y a du reste, je vais revenir aux origines, il y a à peu près, la vigne existe dans l'Aube depuis environ 300 ans, après 3 siècles après Jésus-Christ. Ce n'est pas d'hier. Et tous les coteaux, tout était planté en vigne. Mais il y a eu des périodes très malheureuses et plus heureuses, suivant les circonstances économiques, évidemment. Et le vin, il ne faisait pas de champagne à cette époque-là, mais il se vendait le vin comme ça, en nature, le vin clair. Mais il y a eu des problèmes, évidemment. C'est parce que les maisons de champagne, il y a un siècle maintenant, plus d'un siècle, achetaient dans l'Aube du vin pour faire du champagne. Et à un moment donné, vers 1908, le gouvernement français a écouté les Marnais et, sous la demande des viticulteurs marnais, ils ont déclassé l'Aube et la Haute-Marne. C'est pour ça qu'il y a eu des révoltes en 1911. Et à ce moment-là, évidemment, les vignerons, les maisons de champagne étaient pour les vignerons au bois. Il y a donc eu des éclats terribles, des révoltes terribles dans la Marne. En même temps que dans l'Aube, il y a eu des saccages de caves, des négociants dans la Marne, parce que les négociants voulaient continuer d'acheter du vin dans l'Aube, et ils ne pouvaient plus le faire, en 1909, 1910, et puis il y a eu aussi une mauvaise récolte en 1910. Il n'y a plus tous les jours, et les vignerons n'ont pas fait de vin. Et puis il y a eu le phylloxéra. Le phylloxéra, ça a coûté une fortune. En 1895, c'était le début 1900 du phylloxéra, il a fallu tout replanter. Ça coûte une fortune. Et puis il faut attendre, comme je vous dis tout à l'heure, que la vigne produise, c'est-à-dire qu'il faut attendre 4 ans. Donc il y a eu cette fameuse révolte de 1911, dont mon grand-père était un des piliers à côté de Gaston Cheikh, de Blo et d'autres.
Et ça, vous avez eu des... vos parents vous en ont parlé ou vos grands-parents ? Pas du tout.
Oui, bah, j'ai les photos et tout.
Hein. Et si vous en parlez ?
Les photos de la révolte et tout, bah, oui, j'ai tous les documents. Hein.
Mais ils vous en parlaient ou pas de vive voix ?
Oui, ma grand-mère, oui, m'en a parlé. J'ai connu beaucoup, très longtemps ma grand-mère, oui. Elle était terrible. Elle a failli être finie en prison.
Raconter.
Parce que ça, si vous voulez, c'était quand même une période où il y avait la troupe française était là, occupait la ville, mais il y avait quand même, quelquefois ça se passait mal. Mais enfin, il n'y a pas eu de mort, mais quelquefois ça se passait mal. Et c'est tout, c'était vraiment, vraiment tendu.
Et qu'est-ce qu'elle vous racontait des choses, des anecdotes?
Des anecdotes? Non, elle ne me racontait pas des anecdotes, mais enfin, je sais qu'elle a failli aller en prison, je ne sais pas, elle avait dû insulter la troupe ou des officiers, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, ça s'était mal passé, quoi. Et tous les vignerons, toute la population, tout le monde soutenait les vignerons.
Et vous connaissez le rôle de votre grand-père?
Eh bien, il était secrétaire du syndicat des vignerons. C'est lui qui payait les procès. Il y a eu de nombreux procès, c'est lui qui les payait. Avec l'argent des pauvres vignerons qui n'avaient pas d'argent. Ouais. Et c'était un ami, il gave son chèque, et du reste, mon grand-père faisait avec lui partie de l'harmonie municipale. C'était sa grande famille, l'harmonie municipale. Il gave son chèque, on était le directeur par un moment. Il est très ami avec Blou également, qui s'occupait des vignerons. Et puis il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que. Hein.
Et vous savez à peu près
comment
vous saviez quelle quantité de parcelles il avait? S'il avait une grande parcelle?
Non, il n'exploitait pas beaucoup de vignes à l'époque, mais il les faisait à la main. Hein. Il les piochait au fusseux. Hein. Il devait faire 1,5 hectare à 2 hectares de vignes, mon grand-père. Hein. Mais nous, maintenant, on a des engins terribles. Ça va tout seul. Enfin, il faut toujours les tailler quand même.
Et alors, on va revenir est-ce qu'on peut revenir à vous? À vous-même?
Oui.
Donc, vous êtes allé à l'école où?
Ah ben moi, je suis allé au collège de Bar-sur-Aube, puis après, j'ai préparé l'école normale à Brienne.
Vous étiez plutôt studieux?
Comment?
Vous étiez studieux?
À la fin, oui. Pas au début. Au début, je faisais le bazar, je travaillais pas. À la fin, oui, je me suis mis à travailler, ça marchait très bien. À la fin, mais pas au début. Au début, je foutais rien. Comme beaucoup de garçons, du reste de jeunes, on foutait rien.
Et il n'y avait pas de soucis?
Comment?
Il n'y avait pas de problème?
Non, je travaillais pas beaucoup, je travaillais un petit peu pour arriver, c'est tout. J'arrivais quand même, mais pas beaucoup. Je voulais pas travailler jeudi, je voulais pas travailler samedi, dimanche, je voulais pas beaucoup travailler, moi. Ça me parvait. Rentrer chez moi, je travaillais plus. Alors, quand je me suis bien travaillé, ça rendait. Ça a bien marché. Voilà. Il m'arrive des fois, encore maintenant, enfin, ça m'occupe, des fois, de temps en temps, pas souvent, je passe un article sur la Champagne viticole. Vous savez, c'est un journal qui passe dans toutes les régions, tous les départements de la Champagne, quoi. Ouais. Voilà.
Et vous saviez ce que vous vouliez faire, enfant?
Quand?
Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire, enfant?
Oui,
vous étiez enfant?
Tout petit, rapidement, j'ai su que je voulais être vigneron. Ma mère faisait des beaux sauts parce que ça gagnait rien à l'époque, c'était terrible. J'étais chute 31, donc c'était en 45, quoi. En 40, 45, je voulais être vigneron. Ouais. On a ça dans le sang. Vous voyez, mon fils qui a fait des études jusqu'à 26 ans, 27 ans, il a repris les vignes. Ma belle-mère n'en venait pas, c'est pas possible, ils ont ça dans le sang. Mais c'est un métier très agréable. On travaille dehors. Et vous savez, c'est merveilleux. On respire là-haut sur les coteaux, nos coteaux, on respire très bien.
Vous vous souvenez vos premiers pas dans la vigne?
Ah oui, je travaillais pas trop bien, j'étais un peu incapable. C'est mon père qui m'a tout montré. Et puis le champagne, j'ai appris à travailler le champagne chez un négociant qui s'appelait Chrétien Veillère à Bar-sur-Aube. Qui s'appelait Chrétien Veillère. Donc j'ai appris à travailler chez lui.
Qu'est-ce qu'on apprend?
Eh ben, les fermentations, le mise en bouteille et tout. Hein. C'est un vin, le champagne, c'est un vin qu'est-ce pas, qui fermente une première fois en cuve. Dans le temps, c'était en fût, maintenant c'est en cuve. Et puis, suivant le degré, on dit, le degré des mous, on ajoute du sucre, hein, on met des ferments. Et puis, il fermente une première fois. On le soutire parce que la fermentation amène de la boue, les résidus. Et puis ensuite, quand il est clair au printemps, on le tire, on le met en bouteille et on fait faire une deuxième fermentation. Et cette deuxième fermentation, en vase clos, n'est-ce pas, amène forcément de l'alcool dans le vin. Et puis les levures mangent l'alcool et transforment l'alcool en gaz carbonique. Transforment le sucre en alcool et en gaz carbonique. C'est ça qui fait le pétillant du mousseux du champagne. Et c'est, évidemment, comme cette deuxième fermentation amène également un dépôt, il faudra enlever ce dépôt. On met les bouteilles sur un plan incliné, en bois, etc., en cave, on tourne tous les jours pour amener le dépôt petit à petit au bouchon. Et ensuite, maintenant c'est pratique, on a des bacs, des congélateurs, on trempe la bouteille là-dedans, on congèle juste le dépôt et on fait sauter le bouchon et la pression du champagne éjecte le dépôt. Oui, tout est merveilleux.
Voilà. Et c'est facile à apprendre?
On peut se mettre comme chou pour quelqu'un qui est allé à l'école, se mettre comme chou. Mon fils, je lui ai taillé un plant de vigne, le deuxième, il le taillait. Mais enfin, il y a des jeunes, je les avais 6 mois en stage, et puis ils n'étaient pas foutus de tailler, pas capables de tailler.
Qu'est-ce qui est le plus dur?
Comment?
Le plus dur, c'est quoi?
Dans le métier? Ah ben, c'est la taille. C'est certainement la taille le plus dur, hein. C'est une gymnastique épouvantable. Il faut se relever, se mettre à cuculcellette, s'asseoir, c'est une gymnastique épouvantable, ça, la taille. Hein. Le reste, non. La collage, ça, puis on peut prendre les points de vue personnels, c'est différent. La collage, c'est facile, le reste, c'est les traitements. Maintenant, dans le temps, on faisait ça à dos, les bidons. Moi, j'ai commencé avec un bidon sur le dos. À cette époque-là, il n'y avait pas de machine. Puis après, j'ai eu une machine qui faisait 3 routes, 3 rangs, et je marchais derrière, et une automotrice, et je marchais derrière. Et alors, ça arrosait pas mal, ça m'envoyait tout dans la figure. J'avais un masque, heureusement. C'était quand même mieux que le bidon sur le dos. Et puis après, il y a eu l'enjambeur qui faisait 12, 12, 15 rangs aller-retour. C'était merveilleux, ça. On n'a pas eu un enjambeur tout de suite. Hein. Et dans le temps, on le labourait, maintenant, on le désherbe. Alors ça fait crier les écologistes. Mais enfin, ça nous fait une économie terrible de travail. Hein. Parce que la culture, c'était pas rien.
Il y avait une exploitation ici? Enfin, comment ça se passait?
Comment?
Vos parents, comment ça se passait? C'est-à-dire votre papa avait son métier et après il faisait la vigne ou
Il a
comment?
Toujours continué de faire un petit peu de vigne, une petite vigne pour lui. Et puis après, on a arraché les terres pour moi, bien sûr. Une petite vigne qui venait de son père. Les autres ont été vendus, il a gardé une vigne. Parce que mon père aimait ça, et puis ça améliorait l'ordinaire quand même, et il travaillait également à l'EDF. Donc, et puis il m'a installé et il m'a montré, parce qu'il savait travailler lui. C'est lui qui m'a montré le métier, forcément. Le champagne, il ne savait pas, mais la vigne, il savait très bien. Le champagne, je l'ai appris chez Chrétien Weyer.
Et pourquoi vous êtes allé là-bas?
Chez Chrétien Weyer, pour apprendre le métier de champagniste. Il habitait à Bar-sur-Aube, à 200 mètres d'ici.
C'était après vos études?
Comment?
Après
Oui,
vos
après
études?
l'étude, oui. Ma mère m'a dit, je veux bien que tu sois mignon, mais tu vas aller longtemps à l'école. Alors donc j'ai travaillé un peu pour l'EDF. Ils voulaient me garder, voilà, comme j'allais rester. Je n'ai pas voulu être enseignant parce que je me suis dit au printemps, qu'est-ce qu'ils vont me dire si je quitte le métier? Ils vont faire une belle vie. Donc l'EDF, c'est différent. Je relevais des compteurs, ce n'était pas compliqué. Je suis parti sans problème. Parce que je n'avais pas d'argent. Et quand je me suis marié, j'avais 25 ans. Ma belle-mère a dit à sa femme, mais t'es folle, tu prends un gars, il gagne pas un sou. Et je gagnais pas un sou à cette époque-là encore. C'est nul plus tard. J'ai beaucoup d'amis, qui sont morts maintenant, hélas, mais qui travaillent à l'usine en même temps. Parce qu'ils ne gagnaient pas, ils ne gagnaient rien. Les vignes ne donnaient pas, et puis le champagne se vendait mal. Et puis les vignes ne donnaient pas.
Ça donnait
On avait
quoi?
des périodes de gelée, de coulure, le climat a changé. Hein, et puis au début, je veux dire aussi, on a eu un sale tour. C'est qu'on a pris des greffons dans la Marne, et certains greffons ne convenaient pas ici. Ils étaient très bons dans la Marne, dans ces sols-là. Et puis ici, dans nos sols, ça ne convenait pas. Donc ces vignes-là ne donnaient pas. On avait aussi les mauvais porte-greffes, parce que c'était de la vigne greffée, n'est-ce pas? J'ai vu, un porte-greffe s'appelait le Tiliki 5 bébé. J'avais planté une vigne comme ça, la vigne n'a jamais donné parce qu'elle poussait 10 mètres de long. Elle ne donnait pas de raisin, ça coulait forcément.
Il s'appelait comment le porte-greffe?
Comment? Le Tiliki 5 bébé, ça s'appelait. Maintenant, on a très bon porte-greffe, on ne se trompe pas, on ne fait pas. On ne savait pas, on faisait des bêtises, comprenez-vous?
Et
C'était
vous
des
avez
problèmes.
planté combien?
Oh, j'ai pas planté 5 hectares, j'avais, c'est pas beaucoup. Ouais, en champagne, c'est pas mal. Voilà, j'ai eu les ouvriers et tout. Mon fils marche plus petitement. On a loué des vignes, il marche beaucoup plus petitement. Il est célibataire, il écrase des impôts, là. Il ne travaille pas beaucoup. Voilà. Tout est couvert de vignes à l'origine. Hein. Et la vigne, je vous dis, il remonte. Ce sont les Romains qui ont amené la vigne ici en France, quand ils ont envahi la Gaule. Et ça a commencé par le midi, mais rapidement ça montait parce que les Romains savaient déjà cultiver la vigne et faire du vin. Donc c'est rapidement, l'aube a été plantée en vigne. Et puis, c'est les Romains. Bar-sur-Aube, vous voyez, au départ, Bar-sur-Aube était sur la colline, au haut de la colline. Bar-sur-Aube s'appelait Ségéséra. Et puis c'était un petit village gaulois. Et puis les Romains sont arrivés, ils ont fait un camp là-haut de défense et puis ils ont installé la ville en bas. Une ville avec, à l'image du camp romain, avec une nationale en perpendiculaire avec la rue d'Aube, et puis commençaient des constructions qui tenaient la route. Les Romains ont beaucoup apporté en Gaule, dont la vigne et le vin.
Et
Voilà.
alors, comment ça s'est fait l'évolution depuis le moment où vous avez repris? Donc, c'était en 50, vous avez repris en 55, 56?
Oh, j'ai travaillé avant, dans les mines, hein. J'ai travaillé, j'avais 18-20 ans, j'avais 20 ans, hein, en 51. Hein. Du reste, mon père a fait toutes les mines pendant que j'étais parti faire mon CAP en Allemagne. C'était pas rigolo, j'avais 18 mois en Allemagne, mais il a fait les mines tout seul. Hein. Ouais.
Et
Oh, on a embauché des gens, enfin.
à quel moment ça a changé beaucoup? Il y a eu un grand changement à un moment donné?
Il y a 30 ans, ou il y a 30 ans, 35 ans, quand les mines ne gèlent plus pratiquement, et que le climat a changé, et puis on plante des clones, on met des clones, et les clones donnent énormément.
C'est dans les années, dans quelles années?
Eh bien, je peux pas vous dire, ça correspond à peu près au décès de ma mère. En 1980, 1975, ça a commencé à changer. 1975, 1980,
Et qu'est-ce qui a changé?
les rendements. Les rendements qui ont changé. Puisqu'on plantait des clones, puisque le climat avait changé, et qu'on ne gelait plus au printemps. Et puis on coulait, non seulement on gelait au printemps, mais au mois de juin il pleuvait, il faisait froid, et la vigne coulait. On n'avait pas du tout les beaux rendements. Maintenant, de très gros rendements.
Alors vigneron, ça voulait dire, ça ne voulait dire.
Crève la faim.
Mais après.
Après, oui, bon, on s'enrichit, bien sûr. Bon, enfin, on ne l'avait pas volé. Hein. Il y a des gens qui sont quelquefois jaloux des vignerons, mais ils ont tort, parce que les vignerons ont crevé de faim longtemps. Hein. Très longtemps. Voilà. Aujourd'hui, pour que ça dure, enfin, ce qui nous fait peur, ce sont les conditions économiques françaises et mondiales, je dirais, qui nous font peur. Parce que c'est quand même un produit de luxe qui est sensible forcément à l'économie. Hein. Si
Et là, au départ, vous aviez 5 hectares, c'est ça?
oui.
Et vous avez augmenté au fur et à
Non, non,
mesure?
non. Non, je voulais augmenter à une époque. Et puis ma femme et mon père s'y sont opposés il y a longtemps de ça, il y a 40 ans et 45 ans. Et puis j'ai écouté comment mon père m'avait installé et tout, j'ai écouté mon père. Mais à une certaine époque, je voulais m'installer, c'était facile, parce que les terrains ne coûtaient rien. Mon frère ne vendait pas le champagne comme on l'a maintenant, c'était pas si facile non plus. Puis il y avait les frais de personnel. Hein. J'avais des ouvriers, deux ou trois ouvriers, il fallait quand même les payer et tout. Hein, fallait pas. Donc je ne me suis pas grandi, j'ai fait l'immobilier pour équilibrer les rentrées d'argent. Parce que je me suis dit, la vigne c'est fragile, si c'est arrivé un pépin, comme ça je n'ai pas mes deux dans le même panier.
Et vous avez continué?
La vigne, oui, bien sûr.
Et l'autre activité?
Comment, eh ben, j'ai d'autres activités, ben, parce que j'en ai de l'immobilier, quoi, on est locataire. Il ne faut pas mettre ces deux dans le même panier, la vigne. Et mon père avait peur, il m'a dit, la vigne c'est fragile, le champagne c'est fragile, c'est du luxe. Et il n'a pas tenu à ce que je m'agrandisse. Donc je l'écoutais. Autrement, j'aurais pu faire une boîte comme Drapier. Vous connaissez la maison Drapier, Reville. Je pouvais faire une boîte à l'époque comme lui. J'aurais les mêmes possibilités. Et je ne l'ai pas fait parce que mon père n'était pas été d'accord. Alors le supplément, j'ai remis dans l'immobilier. Bon, c'est pas plus mal. Parce que Michel Drapier est obligé de parcourir en avion sans arrêt le monde pour vendre ses produits, hein, vous savez. Je ne voyais pas en avion, je rentre d'avion.
Parce que qui sont vos clients?
Comment?
Qui sont vos clients?
Ah ben, le client, ben, c'est un peu tout. Un peu tout, ce sont des particuliers, ce sont quelquefois des restaurants. Mais on a moins de clientèle maintenant. Les gens achètent davantage dans les grandes surfaces, et puis ils achètent davantage dans les coopératives, et puis dans les grosses maisons de champagne, qui vendent à l'exportation. La clientèle française, elle a tendance à stagner, elle a diminué.
Alors, à qui vous vendez?
Ah ben, on vend également, en gros, à Nicolas Feuillatte. On fait partie maintenant du groupe de Nicolas Feuillatte. C'est une société coopérative et ça marche très bien. On a une clientèle de vente au détail et puis on a une vente en gros.
Mais vous avez votre marque?
Oui, on a un compte de bar là, c'est une marque rouge. C'est un peu du folklore, ça, mais enfin. On a une marque compte de champagne, compte de bar. Le principal, c'est de vendre de la bonne cablotte. Et le champagne est très bon. C'est le principal. Que le client, bon, qu'il paye 1 € de plus ou moins, il s'en fout, mais il faut qu'il boive le champagne, on a envie d'en boire.
Et au départ, vous aviez envie de faire votre marque?
Oh, c'est une idée de mon père, oui, on avait pris une marque, alors, moi bon, j'ai laissé faire. Hein. Mon père m'a énormément aidé. Je ne savais rien faire étant jeune, hein, forcément. Il m'a monté le métier. Hein.
Alors racontez-moi comment ça s'est fait? C'était quand l'idée de la marque?
Ah, ça c'est vieux ça. Hein. Je sais pas pourquoi il a voulu. C'est une marque qu'avait quelqu'un dans le temps, Bar-sur-Aube. Il a voulu reprendre cette marque-là, compte de bar. Ouf, c'est un peu ridicule, mais enfin bon, là, ça sur l'étiquette, ça ne sert à rien. On a gardé, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Ouais. Il y a des amis aussi qui ont des marques, je ne sais pas lesquelles, mais enfin. Ouf. C'est pas.
Et ça a évolué?
Évolue dans quel sens?
Ben, quand on arrive, on voit Champagne Rubaud.
Oui?
On voit pas Comte de Bar.
Non. Je n'ai pas mis, c'est moi qui ai mis la. Vous avez vu sur le boulevard là? Champagne. Non, je n'ai pas mis le Comte de Bar, non. Je trouve ça un peu ridicule. Bon, ça existe, mais enfin.
Mais sur les étiquettes, il y a Champagne Rubaud ou Comte de Bar?
Champagne Comte de Bar, puis Rubaud, les deux. Et tout. Hein. Il y a les cuissons de Barcelone.
Et là, quel est l'intérêt d'avoir d'être dans une coopérative?
L'intérêt, eh bien, c'est-à-dire que ton vin en gros, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on vend plus cher. Et puis, c'est plus sûr, c'est intéressant, ça.
On vend plus cher.
Ah oui. Et puis, on s'occupe pas à ce moment-là du champagne. Ils viennent chercher le vin et ils le transforment. C'est à nous, si vous voulez. C'est comme c'était nous. Une coopérative, c'est le vigneron qui est propriétaire de la coopérative. Hein. Donc, on n'a pas à se casser la tête. C'est pratique.
Et à quel moment vous êtes rentré dans la coopérative?
Oh, j'en sais rien, il y a 10-15 ans. Ouais. On sait rien exactement, les années passent tellement vite. Hein. Alors, je dis, on change en gros là, et puis on a une clientèle au détail ici à Varsovie. Mais je vous dis, les ventes en ce moment stagnent, diminuent chez le vigneron, alors qu'elles augmentent chez le négociant et dans les coopératives. Parce que c'est grâce à l'exportation. Ça se tasse, le marché français se tasse. Ben, les conditions économiques ne sont pas favorables. Voilà. Enfin, c'est pas affolant pour l'instant.
Et sur par rapport au champagne, vos collègues sont aussi de la concurrence ou pas? Ou il n'y a pas vraiment de concurrence?
Ben, c'est-à-dire, moi j'ai davantage de concurrence que les autres, parce qu'il y a 50 ans, 70 ans, j'étais tout seul à Varsovie. Et dans le coin, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait un par village et tout. Maintenant, il y en a 1 000, 2 000, 3 000, les manipulants, comprenez-vous. Ça fait donc indirectement de la concurrence. Ça, c'est normal. Il faut que tout le monde vive. Hein. Alors forcément, je vends moins de champagne sur le secteur. Avant, tous les gens de Barcelone venaient chez moi, chez le champagne. Maintenant, ils vont ailleurs, forcément. C'est normal. Ils ont leurs amis, leurs clients, etc. Pas... Il faut que tout le monde vive. Hein. Mais on vend, évidemment, on n'exporte pas. Mais on vend beaucoup en France, quoi, ailleurs, quoi. Les gens viennent, on l'expédie. Enfin,
Et comment ça
mais...
se fait qu'il y ait eu beaucoup de périodes de manipulants?
Qu'il y a eu beaucoup de manipulants? Ben parce que c'est plus avantageux que de vendre ses raisins. Ça laisse une marge de bénéfice supplémentaire de 20 à 25, 30%. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Et puis c'est agréable de voir les gens qui viennent chez vous acheter du vin. Non, ça laisse une marge. On est plus indépendant. On ne dépend pas du négoce, on ne dépend pas de. Parce que le négoce, par un moment, ne payait pas cher le raisin. Maintenant, ils payent très cher. Mais ils n'ont pas toujours payé le raisin très cher. Mais enfin, on doit s'entendre avec eux. C'est ce que j'écris sur les journaux souvent. C'est absolument indispensable. On est tous sur le même bateau et on doit s'entendre. Et on s'entend. Il y a un syndicat des vignerons. Il y a un syndicat de négociants, et puis il y a le comité interprofessionnel du vin de Champagne qui, si vous voulez, qui chapeaute tout, et ensemble, ça marche bien. On s'entend très bien. Et ça, pour le salut, ça dure longtemps et c'est merveilleux. Ah, c'est mon épouse qui fait du bruit.
On va attendre un tout petit peu.
C'est enregistré, Mimi, il hein, ne faut pas faire de bruit.
Ah bon, excusez-moi.
Ma conversation est enregistrée. Je suis pas un terrible orateur, enfin.
Vous avez, quand la guerre s'est déclarée, vous étiez assez jeune. Hein?
Ah, en 45?
Non, quand elle s'est déclarée.
En 39, mais j'avais 8 ans.
Vous avez des souvenirs?
Ah oui, j'ai des souvenirs, oui. Les Allemands faisaient des exercices dans la cour chez moi, boulevard Gambetta. Quand elle est rentrée des vacations, ils étaient sous ce... ils étaient... la maison était occupée par les Allemands. Ils ont quand même ils sont partis pas loin, ils sont partis ailleurs. Ils étaient gentils avec nous, correct. Ils me donnaient du chocolat. Mais enfin, je les avais fait impressionner. Ils avaient vu défiler, ils avaient défilé pendant des jours et des jours sur le boulevard. Là, ils passaient à pied, à voiture, à vélo. Il y en passait de la troupe. Hein. Et on était partis vers le midi, puis on est rentré rapidement. Et les Allemands défilaient dans les rues, quoi. Ils arrivaient, quoi.
Ils défilaient, ils passaient ou ils
Comment?
défilaient? C'était un défilé ou alors ils passaient?
Ils passaient, ils passaient. Je ne sais pas, ils allaient sur Paris, je ne peux pas dire. Hein. Alors, je me rappelle très bien. Hein. Il y a des souvenirs qui me sont restés. Hein. La libération, tout ça, les gens de Barcelone sur la place, il y avait un monde fou. Et puis d'un seul coup, il y a le bruit qui a couru que les Allemands revenaient, tout le monde s'est sauvé. On les voyait passer, on voyait, t'as vu, on a des souvenirs de la guerre de 39-45.
Moi j'avais 6 ans. Attendez, bah oui.
Moi j'ai des souvenirs.
J'avais,
hein.
J'avais 7 ans.
Ben, venez vous installer ici.
Mais tu voyais passer quand même les pauvres prisonniers russes, je sais pas quoi. Ils vous leur donnaient du pain, non?
Oui, moi j'avais 7 ans et.
Attends,
je ne me rappelle plus en quelle année exactement.
Donc, juste
il y avait des prisonniers qui étaient à la gendarmerie, maintenant ça va être les impôts, et ils étaient habillés en cosaque, on n'avait jamais vu ça, avec les bottes, enfin, etc., le fourrure et tout. Et les Allemands passaient dans la rue Général de Gaulle, c'est-à-dire dans la rue parallèle à celle-ci, pour aller au centre de tir qui se trouvait sur la route de Soulaine. Et comme les Russes étaient avec eux, ils amenaient une grosse caisse avec des munitions, avec je ne sais quoi, et tous les 5 mètres, on peut dire que la caisse tombait par terre et que les Russes quémandaient à manger. Et tous les habitants, enfin, sur le chemin, s'arrangeaient pour être là et leur filaient des sandwichs ou leur donnaient à manger, si vous voulez. Et c'est incroyable. Enfin, j'ai des souvenirs plus que mon mari, parce que mon père a fait la guerre de 14-18. Alors, il nous a raconté sa guerre, si vous voulez. Et j'aime pas être enregistrée.
Vous voulez que j'arrête?
Oui, je préfère.